Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Vous êtes sur Radio Judaïka dans l'émission Les Rendez-vous du CCOJB, une émission animée aujourd'hui par Miko Israël et Véronique Lederman, membres du comité directeur du CCOJB avec Clément pour la partie technique. Bonjour Véronique. Bonjour Clément.
Bonjour Miko.
Notre émission est bimensuelle. Vous pouvez nous écouter selon les semaines, le mercredi à 16h30 ou le jeudi à 10h et tous les dimanches à 19h sur le 90.2 FM et en podcast à tout moment sur Spotify. Au travers des rendez-vous du CCOJB, nous voulons communiquer avec vous via notre média communautaire Radio Judaïka sur le rôle, les chantiers et l'actualité du CCOJB. Aujourd'hui, nous recevons en première partie de notre mission M. Jean-Philippe Schreiber, conseiller de la rectrice de l'ULB, puis nous accueillerons les deux nouveaux présidents de l'Union des étudiants juifs de Belgique, Gabriella et Gad. Le thème de l'émission est « La communauté juive, l'importation du conflit Israël-Hamas et l'ULB ». Monsieur Schreiber, bonjour.
Bonjour.
Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, un bref rappel, professeur ordinaire à l'Université libre de Bruxelles, où vous enseignez l'histoire des religions et des institutions, entre autres. Et vous êtes actuellement conseiller de la rectrice de l'ULB, Madame Annemie Schaus, élue en 2020. Le thème du jour, comme je le disais, est la communauté juive, l'importation du conflit Israël-Hamas et l'ULB. Depuis longtemps, plusieurs prises de position ou événements intervenus au sein de l'ULB indignent la communauté juive. Je pense à la présence de Ken Loach, à l'existence d'un bureau BDS. Mais le 7 octobre 2023 voit une nouvelle phase des relations entre les étudiants juifs et leur université, comme dans d'autres universités de par le monde. Alors, la première question, elle est simple. Aujourd'hui, les étudiants juifs de l'ULB sont inquiets suite au pogrom du 7 octobre dernier perpétré par l'organisation terroriste Hamas. Quel est votre message et quelles sont les dispositions prises par l'ULB pour assurer la sécurité des étudiants juifs, puisqu'il faut bien appeler les choses par leur nom? D'autant plus que vous êtes destinataire d'une lettre qui vous est parvenue il y a quelques jours et qui dénonce le silence assourdissant quant à la montée de l'antisémitisme sur le campus de l'ULB, silence de la part des autorités académiques.
Alors, je voudrais vous dire que, bien entendu, nous sommes particulièrement attentifs à ces questions. Ce qui s'est produit le 7 octobre a choqué le monde entier et nous a, en tant qu'humanistes, en tant que démocrates, nous a particulièrement touchés aussi. Et je dois vous dire d'ailleurs que la rectrice de l'université, dès le surlendemain, a manifesté sa solidarité avec les victimes de cette épouvantable attaque terroriste. Nous sommes un campus qui est très diversifié, où des étudiants d'origines diverses cohabitent, et nous essayons d'entretenir un climat qui est le plus serein possible. Ce qui n'est pas toujours facile, parce que sur des questions telles que celle-là, qui exacerbent les passions, les positions sont très polarisées. Et donc, on doit faire face, effectivement, au fait qu'il y a des étudiants qui sont plutôt, qui ont plutôt des sympathies à l'égard d'Israël, et puis des étudiants ou des membres de notre communauté universitaire en général, des enseignants, par exemple, qui ont davantage de sympathie pour la cause palestinienne. Il faut essayer de faire coexister tout cela. Et donc, nous avons, dès le lendemain de ce qui s'est passé en Israël, nous avons pris des dispositions. Nous avons pris des dispositions en matière de sécurité. Vous connaissez les questions de sécurité, je ne vais pas vous détailler ce qui a été fait, mais je peux vous assurer qu'évidemment nous sommes particulièrement attentifs à cela, parce qu'il s'agit de nos étudiants, pas qu'ils soient des étudiants juifs, il s'agit de nos étudiants, et notre mission est d'assurer la sécurité, la tranquillité de nos étudiants. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que le sentiment d'insécurité que vivent les étudiants juifs ou éventuellement les étudiants israéliens dans notre université, sur nos campus, je le comprends et nous le comprenons. Donc cela, je ne le conteste absolument pas. Et c'est ça notre préoccupation, c'est qu'il faut rassurer constamment. Et c'est pour cela d'ailleurs que la rectrice de l'université, à son initiative, a rencontré les coprésidents de l'UEJB pour leur faire part de cette préoccupation, pour leur dire à quel point nous sommes attentifs à ce qu'ils vivent et à quel point nous entendons ce sentiment d'insécurité. Donc tout cela, je voulais le rappeler en liminaire, pour vous dire qu'il n'est pas contestable que nous nous intéressons à cette question et que nous sommes préoccupés par cette question et que nous ne voulons pas que notre campus, au contraire de ce que cela a été dans d'autres campus en France, aux États-Unis ou ailleurs, devienne un campus où la haine s'exprime, où des menaces s'expriment, où quelquefois des agressions verbales ou physiques s'expriment. Et je peux vous assurer qu'à ce stade, et heureusement jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien eu de cette nature à l'université. Je suis tous les jours en contact avec le responsable de la sécurité de nos campus. À ce stade, il n'y a eu aucune manifestation d'antisémitisme qui a été actée sur nos campus. Ce qui ne veut pas dire que ça ne se produira pas à l'avenir. Jusqu'à présent, ce n'a pas été le cas. Et d'ailleurs, il n'y a eu aucune plainte en la matière, puisque nous avons des instances qui sont appelées à recevoir des plaintes en matière de racisme, d'intolérance, de discrimination, d'antisémitisme éventuellement. Donc voilà la situation à ce jour. Donc faisons la balance entre, d'un côté, le sentiment d'insécurité des étudiants juifs qui est bien réel et que nous devons prendre en compte, et nous devons les accompagner lorsque, par exemple, ils organisent des manifestations, comme cela a été le cas ces jours derniers, lorsqu'ils organisent une conférence en invitant un otage, une personne qui a vécu les événements dans un kibboutz du sud d'Israël. Nous devons les accompagner. Nous prenons toutes les mesures de sécurité nécessaires pour que cette manifestation se fasse dans la tranquillité la plus totale. Mais c'est vrai que par ailleurs, il y a aussi beaucoup d'activités qui sont organisées par d'autres cercles. Il y a des cercles qui sont tout à fait antagonistes. Vous citiez BDS. Effectivement, il y a des cercles qui sont antagonistes. Mais vous devez entendre aussi, peut-être, qu'il y a quelquefois des sentiments analogues dans l'autre camp. Nous avons des enseignants qui, pour leur prise de position publique, sont l'objet de menaces, d'intimidation, de harcèlement. Et nous devons entendre les deux côtés. Nous devons rassurer des deux côtés.
Alors, il y a un ressenti et puis il y a les faits, ça c'est clair. Et on parle aujourd'hui d'apologie du terrorisme, par exemple lors de manifestations. Y aura-t-il, si ça devait être prouvé, des sanctions prévues à l'encontre des étudiants, voire des professeurs, sous prétexte de liberté d'expression, jusqu'où faut-il aller? Rappelons-nous le paradoxe de Karl Popper, ce qui est très, très important pour l'instant, et aussi, il y a une confusion entre une posture pro-palestinienne et une posture pro-Hamas, qui est en fait pro-terroriste.
Oui, je crois que vous avez tout à fait raison de dire que la liberté d'expression qui nous est chère à l'université, cette liberté d'expression a ses limites. Elle a ses limites dans ce que la loi permet ou ne permet pas. Donc on doit y être très attentif. Alors si des propos sont proférés à l'université qui sont une apologie du terrorisme, même si ça ne tombe pas sous le coup de la loi belge, contrairement à la France, mais si des propos d'apologie du terrorisme sont exprimés, nous souhaitons, en tant qu'autorité, instruire des mesures disciplinaire à l'égard de ceux qui les auraient proférés. C'est pour ça que nous avons dit au coprésident de l'Union des étudiants juifs lorsque nous les avons rencontrés, enregistrez les manifestations, les conférences, les débats qui sont tenus à l'université et venez avec des preuves de ce que l'apologie du terrorisme se serait exprimée sur nos campus, ce qui moralement est inacceptable. Juridiquement, c'est une autre chose, mais moralement, c'est tout à fait inacceptable. Donc, c'est vous dire que nous sommes préoccupés par cette question, mais que dans le même temps, c'est aussi difficile, parce que la limite, quelquefois, est floue. Hein ? Alors moi, à titre personnel, pour moi, il n'y a pas de doute. Le Hamas est un mouvement terroriste, et ce sont des crimes abominables qui ont été commis. Pour d'autres, peut-être, ils vont considérer que les choses doivent être perçues différemment, comme ils le disent, en tenant compte du contexte. Je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais c'est pour vous dire que quelquefois la limite est floue et qu'il faut investiguer au cas par cas et qu'on ne peut pas simplement, parce qu'une conférence est organisée où l'on parle du Hamas, c'est pas parce qu'on parle du Hamas que nécessairement on fait de l'apologie du terrorisme.
Alors, nous voudrions revenir sur l'affaire des affiches des otages. Dans un premier temps, autorisation a été donnée aux étudiants de coller des affiches représentant les visages des plus de 200 otages détenus à Gaza par les terroristes. Dans un deuxième temps, le matin même, l'université a conseillé de ne pas le faire parce qu'elle ne pouvait pas assurer la protection des étudiants. Alors, la question, elle est crue. De quoi parle-t-on ici ? D'indifférence au drame, alors que les affiches sont partout dans le monde. Et où est la honte par rapport à un tel comportement ?
Je m'inscris en faux contre ce que vous dites, pardonnez-moi. C'est tout à fait inexact. Les étudiants juifs ont effectivement apposé des affiches qui ont été, hélas, comme ça se produit souvent pour des motifs politiques, qui ont été arrachées par des personnes d'un autre camp politique. Nous n'avons jamais, jamais découragé les étudiants, nous n'avons jamais demandé aux étudiants de ne pas apposer d'affiches. Ce sont eux-mêmes qui ont décidé, pour assurer leur sécurité, j'imagine, de ne pas poursuivre cette campagne d'affichage. Mais en aucun cas, les autorités universitaires n'ont incité les étudiants à ne plus apposer d'affiches. Je comprends leur volonté de se mettre en sécurité, mais en tout cas, de notre point de vue, rien n'empêchait, et il n'y a pas que les étudiants juifs à devoir le faire d'ailleurs, rien n'empêchait que des affiches montrant les otages soient apposées à l'université. C'est la dignité d'une institution comme la nôtre d'évoquer cette question et de montrer à tout le monde ce qu'est la situation, quelle que soit l'opinion que l'on puisse avoir sur ce qu'il se passe dans cette guerre, quel que soit le camp que l'on a choisi, la prise d'otages qui est en cours est épouvantable et moralement inacceptable pour tout un chacun, quelles que soient nos opinions. Donc en aucun cas, nous n'avons demandé aux étudiants d'arrêter leur campagne d'affichage.
Écoutez, on vérifiera auprès d'eux puisqu'on les interviewera aussi.
Je vous en prie.
D'autant plus, alors on a un autre exemple qui est, par contre, là tout à fait vérifié. Celui de deux étudiants en journalisme, diplômés de l'ULB, qui se sont présentés à un poste à Radio Judaïka et qui ont renoncé sur les conseils de leur professeur de l'ULB, puisque ça pourrait faire tache sur leur CV et leur carrière future. Et ça, c'est un exemple tout à fait vérifié. Alors, quel est votre commentaire là-dessus ? Nous vous écoutons.
Alors, je découvre ce que vous me dites. J'y vois pas de l'antisémitisme, mais une situation déplorable si elle est vérifiée. Maintenant, il faut bien se rendre compte que nous sommes une communauté de 50 000 personnes, hein, étudiants, personnels, etc., et qu'il peut y avoir des imbéciles dans une communauté de 50 000 personnes. On a la taille d'une commune bruxelloise. Donc, bien sûr, je désavoue complètement, je m'oppose à ce que j'entends, mais vous ne pouvez pas généraliser cela à l'ensemble de l'institution. Ce n'est pas parce qu'un professeur a déconseillé de manière idiote à ses étudiants, croyant peut-être faire leur bien d'ailleurs, a déconseillé cela à ses étudiants, que pour autant cela puisse être représentatif de ce qu'il se passe à l'université. Nous sommes une université, je vous le dis, où jusqu'à présent, heureusement, malgré les tensions que ça provoque, il ne s'est rien produit de semblable à ce qui se passe dans d'autres universités. Mais je peux vous citer, moi aussi, plusieurs exemples de professeurs dont je trouve les propos moralement inacceptables. Ils passent à la télévision, on les lit sur les réseaux sociaux. Je ne partage pas du tout leur point de vue, et en particulier sur la question qui nous occupe ici, à savoir la guerre entre Hamas et Israël. Mais vous ne pouvez pas généraliser cela à l'ensemble de l'institution.
Ok. Alors maintenant, dernier sujet d'interrogation, le certificat interuniversité et haute école. Complexité, nuances et regards croisés, Israël-Palestine. Il avait été prévu d'organiser une séance d'information en vue de l'organisation de ce certificat, séance d'information qui n'a pas eu lieu. Ce certificat qui se déroule sur une période d'un an avec un programme bien établi, toujours d'ailleurs visible sur le site. Mmh. Qu'en est-il aujourd'hui, vu l'actualité, de maintenir cet enseignement, d'autant plus qu'il y a dans ce certificat des personnalités aussi contestées, par exemple que le professeur Dubuisson, dont nous connaissons ses antipathies particulières à l'égard de la communauté, le dit projet risque, eu égard aux autres participants également, d'attiser encore davantage les antagonismes sur le campus, ce qui, au final, engagerait la responsabilité académique. Quelle est votre opinion à ce sujet ?
Alors, moi, je crois qu'au contraire, ce certificat et ce programme ont toute leur place, plus que jamais peut-être, au regard de ce qu'il se passe. Je peux vous en parler parce que c'est à l'origine une idée qui est la mienne, à savoir que dans le cadre de mes fonctions de conseiller de la rectrice, je rencontre Simone Suskind, qui me fait part de ce qu'elle fait en emmenant non seulement des élèves des écoles bruxelloises en Israël et en Palestine, mais aussi des décideurs belges, des journalistes, des gens du monde académique, des enseignants des écoles. Et je lui dis tout mon intérêt pour le projet, ma volonté de participer à un de ces voyages. Et malheureusement, je n'ai pas participé au voyage, mais en revanche, je lui ai dit, mais c'est vrai que sur ces questions tellement difficiles, il faut qu'on fasse quelque chose à l'université. Il faut que l'on puisse proposer à l'ensemble de la communauté universitaire et au-delà un programme d'information et de formation qui permette non pas de perpétuer les antagonismes, mais d'écouter les deux narratifs. Le narratif israélien, le narratif palestinien, qui quelquefois sont en désaccord, qui quelquefois concordent pour expliquer ce qu'il se passe dans ce coin du monde qui nous est important depuis maintenant plus d'un siècle. Et donc on a mis sur pied ce certificat l'année passée, ça s'est très bien passé. Contrairement à ce que vous dites, pardonnez-moi, mais c'est un programme avec des gens que nous avons conviés à y donner des formations qui ont des positions très différenciées, des sensibilités différentes. L'année passée, Joël Kotek a pris la parole. Il vient pas cette année, mais il y en a d'autres qui ont la même sensibilité que Joël Kotek, hein, qui est plutôt favorable aux politiques israéliennes de manière générale. Et puis, il y en a d'autres, effectivement, qui ont d'autres positions. On n'invite pas François Dubuisson, que vous citez, on l'invite pas pour faire part de son militantisme peut-être pro-palestinien, on l'invite en tant que spécialiste du droit international, parce que c'est une question importante. Donc, on a un panel d'enseignants qui sont très différenciés quant à leur sensibilité sur le sujet. Et donc, moi, je pense au contraire que manifester cela aujourd'hui, eh bien, c'est un gage de ce que cette question, on ne peut pas l'éluder. Elle est tellement présente, elle nous bouleverse tous. Il faut être capable de continuer à parler de ce conflit, de tenter de l'expliquer en se disant, on ne va pas pouvoir concilier tous les points de vue, mais on va écouter les deux narratifs et on va essayer de tirer du positif de la compréhension des deux narratifs.
Oui, mais quand on voit la liste des participants, revenons sur le professeur Dubuisson, pour ne parler que de lui.
Vous focalisez. Hein.
Non, parce qu'on le voit beaucoup ces derniers temps. Je ne suis pas convaincu qu'il va mettre uniquement son expertise en relations internationales au profit de
N'anticipez pas, venez l'écouter et puis vous jugerez après coup.
Moi, je crois qu'effectivement, ça risque à un moment donné de déborder. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre un filtre à cela ?
Je ne le pense pas. Ça ne débordera pas tout simplement parce que c'est une formation universitaire et qu'il y a une sorte de charte éthique tacite que suivent nos enseignants, même ceux que l'on invite. Lui, c'est un professeur de l'ULB, mais il y a des gens extérieurs. Je parlais de Joël Kotek tout à l'heure. Il y a Vincent Villemain, qui est un prof français que je connais bien, que j'ai sollicité. Il y a des gens très divers. Et la charte éthique, c'est qu'on fait quelque chose qui a une tonalité universitaire, académique, scientifique. On ne veut pas que ça déborde. Et l'année passée, c'était l'année test, si vous voulez, c'était la première édition, ça n'a absolument pas débordé, avec des gens qui viennent d'horizons très différents. Et ce que je trouve formidable, c'est qu'il y a là beaucoup d'enseignants qui viennent de milieux musulmans, bruxellois, et qui découvrent un monde, à travers cette formation, qui découvrent un monde aussi à travers le voyage qui leur est proposé de partir en Israël et en Palestine, devenir des ambassadeurs de nuances et d'écouter les choses là-bas sur place en s'imprégnant aussi des émotions que ça provoque, de rencontrer des parents de victimes du terrorisme en Israël, de rencontrer des parents de jeunes qui sont en prison ou qui ont été tués par l'armée israélienne du côté palestinien. Tout ça me semble tout à fait nécessaire, utile et plus que jamais.
Okay. Non, juste une petite rectification. Joël Kotek ne soutient pas les politiques israéliennes. Il a combattu le gouvernement Netanyahou. Il soutient l'État d'Israël comme nous tous.
Voilà. Oui, j'accepte volontiers celui-là. Je n'ai jamais dit que c'était un soutien inconditionnel des gouvernements israéliens. Mais c'est une sensibilité différente de celle de François Dubuisson.
Ah, ça, c'est clair. Ah,
oui, ça, c'est...
voilà. Ça, c'est évident.
Bon. Moi, ça rééquilibre. Alors, dernière question. Suite à cet entretien, de ce que je comprends, est-ce que l'ULB a vraiment pour tâche d'assurer la protection des étudiants juifs, ou est-ce que l'ULB, face à la situation aujourd'hui, elle risque pas à un moment donné de démissionner, auquel cas les étudiants juifs n'auraient d'autre choix que d'aller sur d'autres campus?
Écoutez, j'espère qu'ils resteront sur nos campus parce qu'on porte une voix différente en matière d'enseignement à travers le libre examen, à travers nos engagements qui sont anciens. On est une université qui débat parfois de manière vive sur certaines questions, des questions brûlantes. Nous sommes une communauté diverse. J'espère qu'ils resteront. En tout cas, je peux vous dire que l'engagement de la rectrice et mon engagement personnel, au regard aussi de ce que je suis, de mon identité, tout cela, l'engagement est d'être constamment aux côtés des étudiants juifs, de les écouter, et nous sommes prêts à les rencontrer quand ils le souhaitent à nouveau. Nous sommes prêts à entendre s'ils ont des plaintes à déposer. Et nous souhaitons que la situation qui prévaut aujourd'hui, à savoir c'est un campus qui reste raisonnable de ce point de vue, même si des opinions très antagonistes s'y expriment, que cette relative tranquillité persiste. Mais sachez que si, d'une façon ou d'une autre, la sécurité des étudiants juifs serait engagée, nous serions là pour les soutenir et pour sévir. C'est absolument indispensable, par égard pour eux, mais par égard pour l'ensemble de notre communauté universitaire.
Donc vous êtes vigilant, on peut compter sur votre vigilance.
Absolument, et j'espère qu'on sera digne de confiance en matière de vigilance. C'est à vous aussi de faire peut-être le bilan dans un mois, dans deux mois, dans trois mois. Et surtout, j'espère que la situation ne connaîtra plus d'escalade, que ça ira mieux en Israël-Palestine et que ça ira également mieux chez nous.
Ok.
On prend note de l'engagement.
On vous remercie. On arrive à la fin de cet entretien.
Merci à vous.
Merci à vous d'être venu.
אני שומע שוב ברגעי השלווה את ג'ניס ג'ופלין שרה בלוז ישן על בובי מגי רביעה קאמרית ממגנת.
Chères auditrices, chers auditeurs, rebonjour. Nous voici arrivés à la deuxième partie de notre émission Les rendez-vous du CCOJB, une émission animée aujourd'hui par Miko Israël et Véronique Lederman, membres du comité directeur du CCOJB, avec Clément pour la partie technique. En première partie, nous avons reçu M. Jean-Philippe Schreiber, qui est professeur ordinaire à l'Université libre de Bruxelles et actuellement conseiller de la rectrice de l'ULB. En deuxième partie, nous avons le plaisir d'accueillir les deux coprésidents de l'UEJB. Nous avons Gad et Gabriel. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bienvenue.
Nico. Bonjour Véronique.
Nous sommes très heureux de vous accueillir. Nous vous avons appelé dans le cadre de cette deuxième partie de l'émission en raison de la situation qui nous préoccupe aujourd'hui. Depuis le 7 octobre, les choses ont beaucoup changé. Je voudrais avoir un petit peu votre sentiment sur la situation que vous vivez aujourd'hui sur le campus de l'ULB en tant qu'étudiant juif.
Alors ça a déjà été plus facile d'être juif sur un campus universitaire. On est confronté à un sentiment d'insécurité constant. À l'UEJB, on avait l'habitude d'avoir des événements sur le campus avec d'autres organisations. Et depuis qu'on s'affirme en tant que soutien à Israël et dans une période où on a consacré 150% de nos activités à Israël, parce qu'on se sentait aujourd'hui obligé de mettre le reste de côté, on ressent un boycott de la part des autres organisations. Une affiche avec le logo de l'UEJB sur le campus ne tient pas plus qu'une heure sur les murs de l'ULB. Donc il y a un gros problème. Et puis on a ce sentiment qu'on doit un peu se cacher, que nos paroles tombent dans une indifférence générale, qu'on doit un peu se battre. On continuera à crier, c'est pas pour ça qu'on se taira. Mais voilà.
Ok, Gabriel.
C'est ça. En fait, ce qu'on ressent aujourd'hui sur le campus, c'est surtout de la solitude. C'est-à-dire que déjà, on est une minorité, sans doute la minorité la plus faible représentée sur les campus, c'est le campus Bell en général. Et là, ce qu'on ressent, c'est une solitude de un par cet arrachage de nos affiches qui ont commencé en fait par l'arrachage des affiches des otages, ce qui était d'une violence sans nom parce que c'était apolitique comme message, c'était un message simplement humain, on demandait la libération des otages et ces affiches ont commencé à se faire arracher. Et maintenant, c'est toutes les affiches qu'on colle, dès qu'il y a le logo de l'UEJB, dès qu'il y a une étoile de David, elles se font arracher. On ressent aussi une solitude par rapport à l'obsession en fait qui est faite du conflit et de la narration. La narration qui est faite du conflit sur le campus. Il y a énormément de conférences qui sont organisées. Il y a tous les collectifs étudiants aussi, parce que nous, comme on est dans le monde étudiant, on ressent aussi une solitude à ce niveau-là. C'est-à-dire que les collectifs étudiants avec lesquels on était habitués de travailler, d'organiser des événements, prennent position sur le conflit, pas du tout en notre faveur, évidemment. Ils appellent leurs membres à participer à des manifestations pro-Hamas. Ils organisent plein de conférences qui ne nous représentent pas du tout. Et du coup, aujourd'hui, on a peur de montrer qu'on est juif et on conseille à nos membres même de ne pas le faire.
Alors, deux remarques. D'abord, la situation est beaucoup moins idyllique que ce qu'on nous a dit précédemment avec le professeur Schreiber. Et d'autre part, je voudrais revenir sur l'affaire des affiches parce qu'on a eu un petit différent là-dessus. Donc, vous avez quand même été autorisé à coller les affiches des photos des otages. Et l'université ne s'est pas manifestée pour vous conseiller de ne pas le faire.
Alors, effectivement, Véronique, la situation est moins idyllique que ce que les autorités académiques essayent de nous montrer. Concernant les affiches, on a été autorisé à coller les affiches parce que voilà, je pense pas qu'ils pouvaient vraiment nous le refuser, mais on avait un sentiment qu'on ne pouvait juste pas le faire. Donc non, ils nous ont pas clairement dit ne le faites pas. Mais à partir du moment où tous les membres qui viennent coller des affiches ont ce sentiment d'insécurité, ils ont le sentiment qu'à 14h, en pleine journée sur le campus de l'ULB, on ne peut pas coller des affiches avec un visage d'un otage. Le problème, il n'est pas de chez nous d'avoir un sentiment d'insécurité, il est bien de chez eux, même si formellement, ils ne nous ont pas dit de ne pas le faire. Et concernant le fait que, effectivement, la situation est moins idyllique, ils ont l'habitude de dire que l'antisémitisme sur le campus aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas concret, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment eu lieu, ou qu'aujourd'hui, on ne recense pas suffisamment d'actes antisémites, qu'il y a juste un sentiment, mais c'est totalement faux. Qu'est-ce qu'on attend ? On attend qu'un étudiant se fasse poignarder sur un campus pour nous dire maintenant « Ah, il y a de l'antisémitisme sur les campus !» Et donc ça, c'est assez problématique dans leur vision.
Mais vous aviez justement écrit une lettre vous aviez co-signé à la rectrice de l'ULB. Quelle a été la réaction de ça, à cette lettre ?
Alors, la lettre qu'on a écrite à la rectrice de l'ULB, co-signée notamment par enfin, l'initiative du CCLJ et co-signée par plusieurs professeurs de l'ULB, on a eu une réaction assez bizarre, j'ai envie de dire, de la rectrice et du rectorat en général, qui nous disait qu'on mettait un peu de l'huile sur le feu, que maintenant, il n'y avait pas eu des actes antisémites sur le campus. Et encore une fois, effectivement, il n'y a pas eu un arrachage d'une étoile de David, il n'y a pas eu un juif qui se fait tabasser sur le campus. J'ai envie de dire encore heureux. Mais on a des affiches qui se font arracher tout le temps parce qu'il y a juste un Magen David dessus. Alors que les affiches des kidnappés se fassent arracher, moi, je trouve ça complètement aberrant. Parce qu'il n'y a pas de message politique, mais qu'à partir du moment où des affiches où il y a juste un ski UEJB se font arracher et que celles du ski droit ou du ski Solvay juste à côté ne se font pas arracher, c'est de l'antisémitisme. Et alors, ils ne vont pas venir nous dire que ce n'est pas l'antisémitisme. Peut-être qu'on a été habitué à un antisémitisme extrêmement violent et que l'antisémitisme, c'est le racisme qui tue le plus, on le sait depuis toujours. Mais en l'espèce, c'est totalement de l'antisémitisme d'aller arracher des affiches parce que c'est lié à l'UEJB.
C'est ça.
En fait, ce qui est aussi particulièrement problématique, et c'est sans doute pour ça qu'on se sent en insécurité et qu'on annule nos événements aussi sur le campus, c'est qu'il n'y a actuellement aucune définition de l'antisémitisme qui est adoptée par les autorités académiques. Quand on ne sait pas où tracer la ligne de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas, c'est normal que nous, on a peur. C'est-à-dire que nous, on vient avec des demandes, des plaintes, ce que nous, on considère antisémite quand nous, on se sent en danger. Et la réponse des autorités académiques, c'est non, on considère au cas par cas que ça, ce n'est pas antisémite. Tant qu'il n'y a pas de définition claire, non, on ne se sentira pas en sécurité.
Bien sûr.
C'est pas seulement au niveau des autorités académiques, c'est au niveau de la Belgique. La définition de l'IRA, à part la résolution du Sénat de décembre 2018, on est toujours dans le flou. Et tant que cette définition ne sera pas adoptée, tant qu'il n'y aura pas de coordinateur national de lutte contre l'antisémitisme en Belgique, on va avoir un problème.
Oui, exactement. Nous, on a donc déjà fait la demande d'adopter cette définition quand on a été rencontrer la rectrice. On continuera de demander son adoption. Et la réponse qu'on a eue, c'était que cette définition était... allait sans doute être pris un peu comme une provocation, parce que parmi les exemples de ce qui est considéré antisémite, la plupart concernent Israël. Mais en fait, c'est la réalité. Ce qui est antisémite aujourd'hui, c'est pas ce qu'il était il y a 30 ans. Ce qu'on considère antisémite aujourd'hui, c'est principalement uniquement lié à Israël. C'est-à-dire que l'antisémitisme, il s'exprime par le conflit. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à faire comprendre. De part aussi, on nous reproche de défendre cette définition-là parce qu'on est juif, parce qu'on est trop sensible, parce qu'on ne supporte pas la critique d'Israël. En fait, on nous fait passer un petit peu pour des soutiens indéfectibles à l'État d'Israël, ce qui nous empêche une certaine objectivité. Et donc, cette définition-là, pour le moment, on est vraiment loin de l'adopter, dans le cadre académique en tout cas.
Et dans le cadre national aussi. Et ça pose un gros problème parce que de nombreux pays européens ont adopté cette définition. De nombreux pays européens ont nommé un coordinateur de lutte contre l'antisémitisme. La Belgique, une fois de plus, est le parent pauvre de cette histoire. Et le problème, c'est que le 1er janvier, la Belgique prend la présidence de l'Union européenne. Et que déjà, ils avaient été sommés d'adopter cette définition et de nommer ce coordinateur en 2022. La date limite qui leur a été imposée le 1er janvier 2023. On suit cette histoire. Il y a une réunion tout à l'heure du mécanisme de veille. mais on ne voit pas du tout c'est la manière dont ils vont se dont, la manière qu'ils vont utiliser pour être prêts pour le 1er janvier 2023. Donc on a un très très gros problème en Belgique. Et je crois aussi, ce qu'il faut rajouter, c'est qu'évidemment on est attaché à Israël, que tout le monde se cache sur le label anti-sionisme contre le gouvernement israélien. Mais cet anti-sionisme, ça cache un antisémitisme réel. On l'a vu dès le lendemain du 7 octobre. Tout a dégénéré à une vitesse incroyable. Et donc, ça veut bien dire que l'antisémitisme est là, il est récurrent. Ils ne peuvent pas dire le contraire.
Il y a même des pays qui considèrent que l'antisionisme est tout à fait de l'antisémitisme. Donc, c'est un faux prétexte, tout ça.
Et ce qui était assez étonnant, pour revenir sur la réaction du rectorat, c'était de nous dire, oui, non, l'IRA, c'est provocateur, peut-être réfléchissez à quelque chose d'autre. Donc on avait déjà, on savait qu'on allait nous le dire, on avait réfléchi à d'autres définitions, notamment celle de Jérusalem. On leur propose celle de Jérusalem. Ah, ils sont beaucoup plus intéressés, mais finalement, alors on se dit, ah, ok, bah alors l'université n'est pas fermée à adopter une définition. Ah non, 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 mais on ne compte pas adopter une définition. Donc au final, on parle, mais aucun acte. Et c'est un peu ce sentiment, c'est qu'on parle dans... à huis clos avec les étudiants pour leur montrer qu'on est là. Mais après, on ne bouge pas parce que peut-être qu'on n'a pas envie de se faire une mauvaise image auprès d'autres communautés. Et c'est assez dérangeant.
Donc, c'est un vécu difficile.
Oui, complètement. En fait, le vécu difficile, il a aussi commencé dès le lendemain en fait, des atrocités du 7 octobre parce qu'il n'y a absolument, enfin, il y a aucune de nos universités qui ont pris la parole sur les plateformes étudiantes pour apporter son soutien à la population israélienne. Et donc, en fait, moi, à partir du moment où on décide de ne pas communiquer sur une population qui est victime de terrorisme, qui est victime d'une barbarie sans nom, parce que c'est en Israël et donc parce que ce sont des juifs, pour moi, il démarre là l'antisémitisme. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à faire comprendre. C'est le silence, c'est aussi antisémite. C'est ça surtout que les autorités académiques ne comprennent pas particulièrement. C'est que le fait de ne pas s'exprimer, parce que ça se passe en Israël, c'est antisémite.
Qui ne dit mot qu'on sent. Il faut dire les choses comme elles sont.
Et alors là aussi, par rapport à cette réaction, enfin ce manque de réaction des autorités académiques, on avait le rectorat nous a répondu à la lettre qu'ils avaient effectivement réagi. Mais c'est n'importe quoi. Ils ont fait un post. Enfin, Anne Michaud, la rectrice de l'ULB, a fait un post qui a été reposté par le compte de l'ULB. Et ce post, pour vous dire, il a 53 likes. Donc je pense pas que ça ait une vraie diffusion. Enfin, j'en suis sûr même, comme ce qu'il y a eu pour les Ouïghours ou pour l'Ukraine, où ça a été affiché sur toutes les plateformes de l'ULB.
Et alors, carrément, à l'UCL, on n'a pas de réaction du tout, quoi.
Ah oui, non, il y a eu un incident grave avec une prise de parole d'un jeune étudiant qui a fait de la propagande pro-palestinienne devant son professeur. Et une semaine après, là, il y a eu une rectification très forte dans la même salle avec les mêmes acteurs, si je peux dire.
C'était à l'Institut Saint-Louis. Hein.
Et, et là, ça a été rectifié. Mais bon, voilà. Et comment vous imaginez votre futur d'étudiant juif sur le campus de l'ULB ? Est-ce qu'on ne vous sent pas évidemment serein, mais personne ne l'est pour l'instant. Mais qu'est-ce que vous comptez faire ? Est-ce que vous pensez continuer vos études dans ce contexte-là ?
C'est compliqué à dire aujourd'hui. On essaie de pas trop réfléchir à ce qui se passera plus tard. On essaie d'être au moment présent, d'agir sur, on veut, une réaction des autorités académiques, une limitation à l'importation du conflit, une démission de l'antisémitisme. C'est des choses qu'on veut pour maintenant, mais pour l'avenir. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour un juif de se projeter un avenir dans les universités en Belgique. Je pense en Belgique en général. On est très déçus.
Pas seulement en Belgique, d'ailleurs.
Ouais, peut-être, en Europe en général. Pas seulement en Belgique. Mais donc, c'est assez compliqué et on essaye de ne pas trop penser à ça parce que sinon, on ne fait plus rien. Et donc, voilà.
Ouais. L'avenir qu'on envisage, en fait, en tant qu'étudiant ici, c'est pour nos étudiants, mais c'est aussi juste comment est-ce qu'on se sent en tant que juif dans notre avenir en général en Belgique, en Europe. Et là, le fait que, en fait, on ressent ni un soutien du côté de certains politiques, ni un soutien du côté académique. En fait, on se sent soutenu nulle part. Et donc, c'est sûr que si on commence trop à penser au futur qu'on a, nous, justement, on se bat pour qu'on puisse envisager notre futur en Belgique. Après, c'est sûr que si on continue à ne pas à créer dans le vide et à ne pas nous écouter, on se posera des questions.
Il faudra se poser les bonnes questions en ce moment-là. Voilà. Bon, on se les posera tous, d'ailleurs. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie infiniment d'être venus. Courage, soyez très prudents.
Merci.
On est avec vous, on vous soutient, on est là derrière vous, on fera tout pour vous aider. Et tenez bon. Voilà,
merci
c'est
beaucoup.
Tout ce qu'on
merci
peut
beaucoup.
Dire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous.
Et travaillez bien. Hein.